Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième épisode de Fire Escape. Aujourd'hui, je n'ai pas un, mais deux invités. Il s'agit de Jean Gab et de sa femme Sheila, un couple franco-américain qui vivent dans le Nevada. Dans ce podcast, on vous emmène en voyage, puisqu'avant de partir aux États-Unis, ils ont vécu en France, au Japon et en Égypte. On parlera également de leurs deux enfants, avec qui ils sont partis à l'étranger, d'éducation quand on est un couple binational, du système scolaire américain et de tous les autres aspects de leur vie aux États-Unis. Direction Reno, dans le Nevada. C'est parti. Eh bien, Jean-Gab et Sheila, bienvenue dans le podcast.
Merci. Bonjour.
Est-ce que vous pourriez rapidement vous présenter, dire où vous habitez, ce que vous faites et où et comment vous êtes rencontrés?
Moi, c'est Sheila Puchot. Je suis prof de fac à l'Université de Nevada. On habite à Reno, dans le Nevada, à 1 kilomètre de la frontière de la Californie.
Ok.
Ouais, moi, je suis Jean-Gabriel, donc tout le monde m'appelle Jean-Gab. Je travaille comme juriste ici aux États-Unis. Je suis avocat en France. Donc ça, on s'est rencontré à Paris avec Sheila. Elle était étudiante d'échange. Moi, je travaillais déjà, voilà. Et donc, c'est comme ça que tout a commencé et que ma vie parisienne, qui était très bien réglée, s'est retrouvée complètement chamboulée. Bon, c'est une longue histoire.
Oui, mais il m'a suivie au bout du monde.
Ouais, donc...
Et ça, c'est beau.
Voilà.
Donc, est-ce que tu as décidé de voyager? Est-ce que tu n'as pas seulement vécu aux États-Unis? On a déjà parlé, tu as vécu à d'autres endroits. Est-ce que tu as décidé d'être expatrié pour suivre Sheila? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu voulais faire déjà de base?
Je l'avais déjà fait parce que j'avais fait un programme d'échange avec ma fac où j'étais parti au Chili. Donc ça avait été vraiment ma première grosse expérience à l'étranger. Et ensuite, Sheila, en fait, c'est une des choses qui nous a attirés parce qu'elle aussi avait déjà vécu à l'étranger. Puis elle était à Paris exactement dans les programmes d'échange. Donc, vive les programmes d'échange universitaire.
Ouais.
Et donc, c'est comme ça que c'est parti. Et ensuite, pour ce qui a commencé comme vraiment une histoire copain-copine à Paris sans lendemain. Après, est devenue plus compliquée, plus sérieuse. Et puis, donc, on s'est retrouvés à vouloir partir à l'étranger de nouveau, en fait.
OK.
Donc, c'était assez, assez marrant, quoi. Et donc, on est parti, pas aux États-Unis, on est parti au Japon. Parce qu'en fait, on s'est rencontrés, vraiment c'était la fin de ses études, c'était au mois de mars, fin mars. Et elle partait, tu vois, fin mai, début juin, donc c'était vraiment histoire, on est sortis ensemble quelques mois.
Ok.
Et ensuite, elle est rentrée aux États-Unis, en plus elle habitait vraiment en plein milieu à Columbia dans le Missouri. Moi, j'ai décidé de terminer la relation. Je l'ai lâché. Je l'ai largué pour parler vraiment franchement. Puis ensuite, elle est revenue en France à Thanksgiving. C'est assez drôle, on raconte ça comme le voyage qui n'avait rien à voir avec Jean-Gab. C'était officiellement pour voir les derniers sites qu'elle n'avait pas eu le temps de visiter. Puis là, on s'est remis ensemble. À partir de ce moment-là, c'était quand même sérieux. On était vraiment dans une relation différente. Et donc, entre-temps, dans ce qu'on appelle la post-pub, elle avait postulé pour partir au Japon par une bourse Fulbright.
Ok.
Elle l'avait eu. Et puis, moi, j'étais prêt. Je travaillais comme avocat.
Oh, il était prêt. Il était prêt, il dit. C'est assez drôle parce que, oui, j'avais postulé cette bourse pour aller au Japon pour poursuivre une recherche. Et je rentre à Paris et on se remet ensemble et je lui explique, c'est un truc, je sais que tu n'en avais jamais entendu parler du Fulbright, mais si je l'ai, c'est un assez big deal, si tu veux, et j'aurais envie de le faire si je l'ai, et je pense que je vais l'avoir. Et il ne voulait pas trop en parler, il évitait toujours le sujet. Et on est allés tous les deux au ski aux Alpes. Et dans le EasyJet, tu vois, là où tu as beaucoup d'intimité, et on est coincés ensemble dans les sièges du milieu, je lui dis, bon, ben, on a une heure maintenant, on va en parler. Et bon, entre la Suisse et Paris, il s'est mis d'accord que si j'avais ce bourse, il irait. Donc, okay. C'est comme ça que ça s'est passé, que notre première aventure, c'était au Japon.
Voilà.
Et Sheila, tu parlais japonais quand t'es partie?
Oui, en fait, comme il dit, moi, j'avais déjà vécu ailleurs avant d'aller en France.
Ouais.
J'étais étudiante d'échange au lycée au Japon pendant un an. Et donc, oui, je parlais japonais assez bien.
Ok.
J'en gagne pas du tout.
Ouais.
Et donc, j'ai passé un an à faire la traductrice japonais-français qui m'a fait légèrement mal à la tête pour Jean Gab, qui a appris très bien à dire « Non, j'ai toujours pas mangé » quand on lui a demandé s'il avait mangé.
Ouais.
Autrement, c'était moi qui parlais japonais cette année-là.
Hey, c'est bon la nourriture au Japon. Faut en profiter.
Ah oui, bah ça.
Et notre fils est né au Japon.
Ouais, ça c'est okay. Toute une aventure. Ouais.
Et vous êtes resté combien de temps au Japon avec votre fils avant de repartir du coup?
Bah un an.
Un an. Okay.
Et Jacques est né, il avait 5 mois quand on est parti du Japon.
Oui, il est né à peu près au milieu du séjour.
Oui.
D'accord. Et Sheila, donc tu parles très bien français. Je pense qu'en vivant avec un français, ça peut aider. Mais est-ce que tu parlais aussi bien à ce moment-là?
Au début, non. Non, non,
d'accord.
Non. C'est gentil, merci de dire que je parle bien maintenant. Moi, j'avais commencé le français comme beaucoup d'Américains à 14 ans, la première année du lycée. Et bon, après, je suis partie au Japon pour faire étudiant d'échange. Et je me souviens très bien, mon prof de français au lycée a dit « Ah ben, c'est un gâchis que tu vas au Japon. » Et donc, j'ai oublié tout le français que j'avais appris. J'ai recommencé à la fac. J'ai fait un an de français en intensif, 2 fois par jour, pendant 4 jours par semaine. Et c'était à peu près 3 ans plus tard que je me suis rendue à Paris pour faire des études. Et donc, dans mes cours, j'étais à Sciences Po, dans mes cours, je comprenais très, très bien les premières 15 minutes.
Okay.
À peu près bien les deuxièmes 15 minutes et pas du tout après. J'étais saturée, j'en pouvais plus. Et donc, quand j'ai rencontré Jean-Gabriel, ce que j'ai trouvé au début en faisant mes études en France, c'est que, en fait, je comprenais les cours assez bien, mais le français quotidien, c'était beaucoup plus difficile. Parce
ouais.
que plus haut on monte en langage, plus l'anglais et le français se ressemblent, comme beaucoup de langages spécifiques en anglais à une base latine.
Mmh, absolument. Ouais.
Plus facile de comprendre dans mes cours que dans les restaurants. Et Jean-Gab parlait déjà plutôt bien anglais et donc on se parlait en anglais parce que au bout de 3-4 minutes on n'en pouvait plus en français.
Ouais.
Ouais.
Et tout le monde disait ah bah t'as un copain français, c'est chouette, ça va être super pour ton français. Et je dis bah c'est quand même une relation, c'est pas un échange de langage.
Ouais.
Donc, voilà.
Ouais, on parlait pas mal anglais. Et ouais, on parlait pas l'anglais.
Oui, parce qu'en fait, les parents de Jean Gab avaient investi dans son anglais. À
ouais.
partir de 14 ans, il a passé tous ses étés dans une famille au Texas. Et comme
okay.
je explique aux Américains, c'était au Texas, mais ça a marché quand même.
Ouais.
ouais, donc tu connaissais déjà très bien les États-Unis, Jean Gab, du coup.
Moi, je connaissais bah, le Texas surtout. Enfin, j'y avais
ouais.
été pas mal avec mes parents. Bon, on avait fait la Floride en vacances, les parcs Miami, enfin le voyage traditionnel. Là. Et ensuite, on avait fait donc. Ouais, moi, j'étais allé au Texas pas mal. Mais déjà, bon, connaître le Texas, c'est déjà énorme. Donc,
ouais.
Mais ouais, j'y suis allé plusieurs fois. Et ensuite, j'y suis allé en vacances souvent. Parce que bon, moi, j'aimais bien les États-Unis. Donc, j'avais déjà été à San Francisco, voir un pote.
À New York.
J'ai été à New York. Alors, ça, c'était assez drôle parce que donc, on s'est rencontrés en mars et partait en mai. Et pendant ces... j'avais déjà prévu 15 jours avant qu'on se rencontre de vacances à New York, quoi. Donc, ouais. c'était assez drôle.
C'était mon copain français, pas aux États-Unis.
Ouais, le copain français aux États-Unis. Ouais, non, moi, je connaissais bien les US, ça me plaisait. Le style de vie me plaisait. Donc, j'étais bien familier, quoi, disons.
Ça ne faisait pas peur.
Ça faisait pas peur, ouais.
Et une fois qu'on s'est mis ensemble, lui, il avait même envie de venir parce que il avait pensé toujours soit faire une étude aux États-Unis en droit, soit passer un peu de temps à travailler ici, même pour augmenter son profil professionnel en France avec un peu d'expérience aux États-Unis. Donc, il était plutôt partant pour venir aux États-Unis. Et moi, je me suis retrouvée assez coincée professionnellement en France.
D'accord. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles vous n'avez pas voulu rester en France, alors?
Oui.
Okay. Ouais, une des grosses raisons, parce que elle était donc en journalisme. Comme on disait, quoi, elle ne parlait pas assez français pour trouver un job sur place, quoi. Et les publications américaines, bon, ils envoient à Paris, dans leur bureau parisien, des gens super expérimentés, pas des jeunes. Mmh. Donc, on s'est vite retrouvé coincé. Donc, elle a fait des petits boulots en France, notamment, elle a donné des cours d'anglais à Peugeot, chez Peugeot.
Ok.
Qui a été une expérience assez drôle, quoi, en fait. Les gens de chez Peugeot étaient sympas, mais c'était assez surréel, comment elle travaillait, etc. Et donc, entre-temps, l'opportunité du Japon était revenue. Ça a été vite plié, quoi. Donc, on est parti dès qu'on a pu, on est parti au Japon.
Et après ça, si je dis pas de bêtises, vous êtes parti en Égypte, c'est ça?
Non, après on est allé en Caroline du Nord.
Ok, donc vous êtes retourné aux États-Unis et c'est là que vous avez fait vos études en graduate, c'est ça?
Oui, exactement. Ouais. Donc on a postulé en fait, donc on était au Japon, on a un peu regardé où on pouvait aller. Puis on a hésité entre quelques destinations, le Canada, la Belgique.
Moi, j'étais pas trop enthousiaste sur le Canada, il était pas trop enthousiaste sur la Belgique. Donc, on a décidé de faire nos études. On a postulé tous les deux des programmes très très forts en droit pour lui et en journalisme pour moi. Et donc, moi, j'ai fait mon doctorat à l'Université du Caroline du Nord et lui, il a fait un an de droit. Un diplôme avancé en droit à Duke.
Voilà. Et donc, on a passé un an étudiant. Enfin, moi, j'ai passé un an étudiant en Caroline du Nord. Sheila a fini son doctorat. Entre-temps, moi, j'ai trouvé un job dans une entreprise locale. Et au total, donc, on a fait 5 ans en Caroline du Nord. Mm-hmm. Notre fille est née là-bas. Et après, en fait, on en avait de nouveau un peu marre de notre vie sur place. On voulait changer un peu.
Oui, et la récession de 2008 a joué.
Ah oui.
Ouais, la récession de 2008 parce que elle a eu son doctorat en 2008, 2008-2007. Donc, il y avait très très peu de postes. Plus personne recrutée, etc. Donc, on a eu aussi cette opportunité d'aller en Égypte.
Oui. On était au moment du printemps arabe. On était assis sur notre canapé en cuir dans notre salon en Caroline du Nord. Et j'avais un copain, un collègue de mon doctorat qui était en Égypte. et il a commencé à poster sur les événements et tout ça. Et on s'est dit, bah, quand est-ce que nous, on est devenus des ennuyeux qui sont assis sur notre canapé? On devrait être là-bas en tant qu'aventurier. Et donc, quand j'ai vu un post à l'université américaine du Caire, on s'est dit, bon, bah, postulons. J'ai postulé, je l'ai eu et paf, on est parti.
Ouais, comme ça. On est arrivé juste après le renversement de Moubarak.
Ok, et donc avec deux enfants.
Oui.
Ouais, deux enfants, sachant que l'une était bébé. de nouveau. Et donc on a vu ça en direct. C'était super, c'était une super expérience.
Oui.
Même si ça a été dur parfois.
Oui.
Puis donc pareil, donc en fait quand on est arrivé en Égypte, on pensait y être plus longtemps. Puis malheureusement, bon ben le printemps arabe en Égypte a tourné court et maintenant ils sont sous le joug d'une dictature infernale, très 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 stricte, très très difficile. Elle, pareil, était quand même prof à l'université du Caire, mais dans la fac de journalisme, dans l'école de journalisme. Et bon, ça tournait un peu au ridicule, quoi, en fait.
Mais disons, c'était difficile de faire des cours d'éthique des médias dans les situations où si mes étudiants ont fait, comme je disais, c'était du bon journalisme, ils se retrouveraient disparus ou emprisonnés.
Ouais, c'est compliqué. Ouais.
Oui, c'est compliqué. Et après aussi, bon, je savais qu'il y avait des étudiants dans mes cours qui étaient là pour dire aux autorités si j'allais trop loin.
Ah ouais.
Moi aussi, c'était oui, on sait ça en journalisme qu'il y aura des étudiants qui feraient des reports aux autorités. Et donc, je me disais, bon, j'en peux plus. Et on commençait à regarder pour revenir et on est revenu. Mais je dois dire, bon, pour revenir au sujet de éduquer des enfants à l'international, ce qui était très très bien au Caire, c'était qu'il y avait une grande communauté d'Américains, une grande communauté des Français. Il y avait le lycée français du Caire et donc notre fils surtout qui avait 5 ans, presque 6 ans au moment de notre arrivée en Égypte. Il a pu profiter de faire 4 ans au lycée français du Caire, ce qui nous a fait vraiment, ça a solidifié son français, son sens d'être français. Et aussi, on avait beaucoup d'amis français, toute une communauté. Et donc ça, c'était excellent. Bon, pour lui, pour moi, mon français a progressé à ce moment-là aussi. Cette expérience d'être une tierce pays nous a vraiment enrichi, je pense, dans les deux cultures.
Ouais, non, c'est vraiment positif, ouais.
Oui, plutôt qu'être dans la culture de l'autre, vous êtes les deux dans une culture complètement différente, donc ça vous oblige un peu à progresser ensemble.
Oui. Exactement, ouais, ça te booste, sachant que en plus, bon, le Caire, c'est une énorme ville, hein, on parle de 20 millions d'habitants,
ouais.
C'est une mégalopole qui, c'est vraiment du 24 heures sur 24, ça avance à un rythme effréné, y a vraiment toujours quelque chose à faire, y a des embouteillages, que tu sois à 3 heures du matin ou à 8 heures à l'heure de pointe, il y a toujours du monde, de l'animation, enfin c'est une ville vraiment incroyable. Certes, architecturalement, c'est pas beau, mais du point de vue de ce qui s'y passe, des gens, des rencontres que tu fais, c'est vraiment une ville extraordinaire. Enfin,
ouais, ça doit être une sacrée expérience.
Hein. En petit exemple. Une fois, on est partis tous les deux en centre-ville pour faire de la paperasse. On a dû faire notarier un truc quiconque, je ne me souviens même plus. Mais on était dans le métro du Caire et on rentrait chez nous, ça a dû être à l'heure du midi. Et il y avait une femme et un homme dans le métro avec leurs deux nouveaux-nés jumelles. Et vraiment, nouveau. Elles étaient nées ce matin-là. Elles sentaient la naissance.
La santé, ouais.
Et vraiment, c'était extraordinaire. Et les gens commençaient à passer les bébés entre eux, à leur faire des bisous, à leur donner des bénédictions, etc. À un moment, je me retrouve, et après, ils nous voient comme étrangers dans le métro, et ils disent « Oh, mais on va donner les bébés aux étrangers qui fassent des bénédictions. » Et je me retrouve dans le métro à tenir deux jumelles, mais fraîche. et je me disais, mais c'est dingue comment tu as ton droit sur le pulse de l'humanité dans une ville comme le Caire. Et bon, c'est extraordinaire et un peu effrayant aussi parce que bon.
Ouais, il y a des chocs culturels quand même.
Parce que nous, on est plutôt bon, on sort pas les bébés, on les protège
des germes,
etc. On fait des bisous partout.
Et donc tout le wagon a embrassé les jumelles. Mm-hmm. Ouais, c'était vraiment un truc de
dingue. Dire gloire au Dieu que ces jumelles sont mises au monde.
Et donc le Caire, c'est vraiment sympa, mais oui, malheureusement, donc ils sont maintenant sous le joug de Sisi, quoi, qui est un dictateur vraiment brutal. Mm-hmm.
Donc après, on est revenu aux États-Unis. Je me suis retrouvé nouveau boulot
ici au Nevada.
Oui.
Donc c'est là que vous êtes devenu au Nevada alors.
Ouais. Oui. C'est un choc un peu parce que bon, tu pars du monde islamique et tu arrives au pays des casinos, la prostitution est légale, le cannabis.
Reno, ouais, c'est là.
Il y a de l'alcool partout. C'était rock'n'roll.
Ouais.
C'était rock'n'roll. Donc, faut préciser, on n'habite pas Las Vegas, on habite la deuxième ville du Nevada qui est dans le nord, qui s'appelle Reno. Mmh. Mais c'était aussi son choc culturel, quoi.
Oui.
Son choc culturel.
Disons que le premier projet que, bon, quand je suis venue pour mon entretien, pour le boulot, on m'a fait faire une démonstration d'enseignement dans un cours de relations publiques. Et le client pour ces étudiants, les clients réels, c'était Tahoe Vodka. Et donc, ils ont donné aux étudiants de travailler sur une campagne de publicité pour le vodka.
Okay.
Ça a changé de l'Égypte, disons.
Ah oui, c'est autre chose. Et c'est intéressant, du coup, d'avoir un choc culturel dans ton propre pays, toi qui viens donc du Missouri, c'est ça ? On t'a dit tout à l'heure.
Moi, je suis du Michigan.
Michigan, ok.
Michigan. À l'origine. Mais
elle faisait ses études au Missouri quand on s'est rencontrés.
Ok, c'est ça. Okay.
Mais donc, choc culturel. Disons que vivre dans l'Ouest, c'est très cool. Bon, c'est très. Bon, tout le monde a des tatouages de l'épaule jusqu'au poignet, des cheveux bleus, ça choque pas.
Je me suis fait faire des tatouages maintenant.
Oui. Ce qui frappe, moi, c'est moi le côté culturel, alors que ça, c'est plutôt rafraîchissant. Les gens vivent et laissent vivre, mais c'est le manque de verre. Parce que, bon, ici, on est dans le haut désert et c'est très, très, très marron. Et trouver la beauté dans ce haut désert, c'est... Il me manque un peu le verre, disons.
Ouais, je peux comprendre, surtout qu'on a grandi dans le Midwest, ça doit être assez perturbant.
Oui. Alors que bon, après on skie, et on a le ski à 45 minutes de chez nous.
Ouais.
Ce qui est super chouette.
Ouais. Mais le choc culturel, c'était quoi ? Pas vraiment, en fait. Il y a eu un peu...
Ben, j'étais prête à revenir aussi.
Ouais, c'est ça.
J'étais prête
à
mettre mes petites robes d'été... J'étais prête à revenir. Donc, c'était pas dur. Le plus dur, c'était pour notre fille qui avait 14 mois quand on est déménagé en Égypte et donc avait 5 ans quand on est revenu pour nous aux États-Unis, mais pour elle, elle avait perdu. L'Égypte, c'était chez elle, quoi.
Ouais.
Et donc, pour elle, c'était dur.
Pour elle, c'était dur, ouais.
Et pour donc, notre... comment ça s'est passé la réintégration?
Ouais.
Ouais, pour notre fils aussi, l'école a été très difficile de se réadapter parce que justement, il est passé du système lycée français du Caire à l'école ici et il a fait une dépression, ça s'est pas du tout bien passé. Donc lui, il a eu un choc culturel assez fort. On a dû le sortir de l'école, donc on a fait l'éducation à distance, donc le CNED, qui était en français aux États-Unis. Enfin, c'était tout un beans.
Et qui a géré le CNED?
Toi, c'était formidable. Oui.
Non seulement j'ai dû faire l'éducation à la maison à mon fils, mais je l'ai fait en français, alors que je ne suis pas française.
Ah ouais, c'est impressionnant ça.
Oui, de temps en temps, il y avait une question de grammaire et je disais, je ne sais pas, demande à ton père. Et demander à son père et papa dit, je sais pas, c'est comme ça, non?
ça toujours. C'est notre langue maternelle. C'est très difficile d'apprendre notre langue, en fait.
Voilà. Non, c'était... mais d'expliquer, en plus, c'est... Parce que moi, je ne suis pas trop pédagogue, faut reconnaître. Mais bon, on s'en est sorti. Maintenant, il a réintégré l'école. Ça dure un an et demi. Et maintenant, ça se passe bien. Les deux, ça roule, quoi.
Mais de l'autre côté, il aurait du mal, voire l'impossibilité de se réintégrer dans les systèmes scolaires en France.
Ouais, maintenant, ce serait dur de refaire dans l'autre sens.
Parce que maintenant, il a 14 ans, presque 15 ans, et ça fait 5 ans qu'on est aux États-Unis. Et bon, alors qu'il est bilingue, c'est pas la même chose d'être bilingue et avoir toutes les capacités en langue française de se réintégrer pour faire ses études au lycée.
Ça... Oui, j'imagine. Parce que du coup, maintenant, ils doivent se sentir américains, enfin franco-américains, mais ils ont grandi dans cette culture-là.
Oui.
Ouais, ils ont. Ce qui leur manque, c'est l'écrit. Ouais. Ils parlent français, mais l'écrit, genre, ils peuvent lire en français, mais ils peuvent pas l'écrire bien. Pas au niveau qu'un enfant. Enfin, moi, je vois, j'ai mes neveux à Bordeaux. Ils pourraient pas s'intégrer comme ça. Donc, c'est difficile, quoi.
Oui. Mais culturellement, les enfants se sentent vraiment les deux.
Ouais, ça, c'est assez rigolo, ouais. Ils se sentent chez eux dans les deux pays, ouais. Ils sont vraiment biculturels. Et ça, c'est assez bizarre, c'est difficile à l'expliquer.
Ils ne sont pas à moitié français, à moitié américain. Ils sont pleinement français et pleinement américain.
Ah oui, c'est intéressant de voir ça comme ça.
Yeah.
Ouais, parce que quand ils sont en France, ils se sentent vraiment pas différents, ils se sentent partie de la société, intégrés, ils appartiennent à cette société. Et pareil, quand ils sont aux États-Unis, ils se sentent pleinement américains aussi. Ouais. C'était un truc qui... qui est assez difficile à expliquer, en fait, pour ce qu'on appelle les binationaux, quoi. C'est ce côté, c'est pas que t'es 50% l'un, 50% l'autre, quoi. C'est vraiment 100% les deux. Et finalement, c'est les autres qui posent un regard et qui ont parfois des préconceptions, qui disent « Oh, c'est pas possible » ou...
Qui cherche à entendre un accent.
Qui cherche à entendre un accent, une différence. Ouais. Enfin, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, alors qu'eux le sentent pas du tout. Eux le sentent pas du tout. Quand ils sont aussi bien à l'aise chez leurs grands-parents en France que chez leurs grands-parents aux États-Unis. donc c'est assez drôle, quoi. Et donc pour ceux qui ont des enfants, qui écoutent, c'est vrai que c'est vraiment possible de donner cette double identité aux enfants, quoi, en fait, et qui se sentent vraiment pleinement.
Le bilinguisme, par contre, ça prend de l'effort.
Ouais, le bilinguisme,
c'est pas automatique du tout.
Ouais, c'est ce que j'allais vous demander. Comment ça se passe pour éduquer vos enfants et à leur apprendre deux langues au final?
Bon, j'avais pas commencé mon doctorat quand Jacques est né, mais j'ai quand même fait de la recherche comme si j'étais déjà en doctorat. Et à l'époque, donc c'était il y a 15 ans, je ne sais pas si les choses ont changé, mais à l'époque, l'idée était que pour un enfant devenir bilingue, il fallait entendre une langue cible au moins 30% de leurs heures éveillées. Et donc, ce que j'ai tout de suite compris, c'était que si je ne parlais pas français aux États-Unis, on n'arriverait pas à 30%.
Ouais.
Et donc, et c'est pas nécessaire, c'est possible de faire un parent une langue, ce que beaucoup de gens font, mais moi j'ai vu tout de suite que si on faisait ça, ça marcherait pas, ce serait pas juste pas suffisant en français. Et donc, je commençais à parler français aux enfants quand ils étaient bébés, quand Jacques était bébé, et il adorait des livres et des CD à l'époque, de chansons en français. Il pouvait se mettre sur mes genoux à écouter Pomme d'Honnête et Pomme d'Api et tout ça à n'en plus finir. Et donc, on faisait des heures et des heures et des heures comme ça. C'était très bien pour ma prononciation aussi. Et donc, on a fait beaucoup, beaucoup de ça. Et jusqu'à 3 ans, on parlait que français à la maison, je dirais.
Ouais, après, on a changé, on parle plus anglais maintenant. Mais c'est vrai que bon, pour préciser, bah, les enfants allaient à la crèche, donc la crèche était en anglais, tu vois, donc.
Ouais, donc ils apprenaient au final en allant.
Moi qui parle français, entre le moment où ils ont besoin de faire des siestes, ils dorment, et le moment où ils sont à la crèche, il y a juste plus assez de temps en fait.
Ouais.
Et donc, ça a été un gros effort et c'est quand même encore un effort qu'on maintient, parce que bon, on essaye de leur donner une culture française aussi, donc ça reste quand même bon, on paye pour recevoir TV5, tu vois, même si bon, c'est pas idéal, mais c'est toujours bien. C'est un effort, c'est un gros effort.
Et ça coûte de l'argent aussi. Parce que bon, après, on privilégie les vacances en France ou au pays francophone. On paye, comme il a dit, pour avoir TV5. On a des livres, etc.
Ouais, qu'il faut faire venir. C'est un investissement. Sachant qu'on n'est pas dans une ville où il y a une grosse communauté française. Bon, t'es à New York,
en plus.
Francisco, il y a beaucoup, beaucoup de Français. Mais bon, c'est vrai que ça.
Ici, il y a nous et quoi, 5 familles.
Non, plus, mais bon, on les connaît pas tous. Il y en a pas beaucoup, quoi. Disons, donc ça c'est difficile, ouais. C'est la culture, finalement, ils l'ont acquise assez facilement, mais le bilinguisme, c'est beaucoup plus dur.
Et c'est vrai que je trouve ça intéressant aussi, cette question de apprendre une culture, parce que bon, quand on grandit dans un pays, finalement, enfin moi j'ai pas appris la culture française, j'ai juste grandi dedans. Comment est-ce que, selon vous, on apprend une culture à quelqu'un, on enseigne une culture?
Je sais pas si on l'apprend, mais en gros, je suis presque plus français ici qu'en France.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile maintenant, parce que tu vois, je suis dans la voiture, je peux mettre la radio française, la télévision, les magazines, etc. Bon, tu arrives, tu t'abonnes, c'est tout digital, tu peux le faire.
Ouais.
Ce qui manque, c'est, tu vois, bon, par exemple, ils n'ont pas le réflexe des marques, tu vois, le papier, tu vois, on dit du sopalin, bon, ça, ils ne savent pas forcément que sopalin, ouais, c'est une marque, ou des trucs comme ça, mais disons, bon, ils sont au courant des événements, ils sont au courant des musiques,
Quand France a gagné la Coupe du Monde, tous les Français de la ville se sont réunis pour nous.
Ouais, voilà. Donc,
pour trinquer, y compris ouais. les enfants.
Voilà. donc, ouais, des choses comme ça. Alors, maintenant, c'est quand même beaucoup plus facile, je dirais, avec les smartphones, les applis, etc.
Ouais.
Ouais.
Par exemple, ma sœur s'est mariée avec un Hollandais dans les années 80.
Okay.
Et leurs enfants n'ont pas appris l'hollandais. Et bon, ils sont allés une fois tous les deux ans à peu près. Mais les filles, mes nièces, ne se sentent pas du tout pareilles hollandaises.
Ok, oui, donc il y a vraiment un effort à faire pour ça au final.
Oui, oui, oui. Et même mon beau-frère a dit qu'il était en train de perdre son hollandais parce qu'il n'avait pas l'opportunité de le parler tout le temps. À l'époque, ouais. Il n'y avait pas l'Internet. Et donc, au moins que quelqu'un lui envoie des articles, des journaux, il perdait la langue courante sur la technologie, etc. Et donc, nous, on n'a pas ces problèmes. C'est assez facile de rester au courant avec la langue, la culture, etc.
Ouais, donc oui, donc tu vois, on peut écouter les podcasts, les émissions de radio, le YouTube. Donc ils suivent YouTube comme ils étaient en France.
Ouais.
Ouais, donc voilà. Donc en fait, il y a pas vraiment à faire un effort.
Ben il faut être conscient de le faire.
Voilà. Ouais.
Mais une fois que tu veux le faire, c'est assez facile de le faire.
Ok, je vois. Et j'aimerais bien revenir sur l'éducation, enfin cette fois plutôt l'école. Comment est-ce que vous décririez le système scolaire américain et Jean Gab qui du coup toi a connu le système français. Comment est-ce que tu pourrais le comparer?
Je dirais le système américain est plus basé sur un enseignement. C'est plus à la carte. Donc alors. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Disons, alors déjà, il n'y a pas de programme national, donc comme en France où les programmes sont issus du ministère et toutes les écoles de France et de Navarre appliquent le programme. Donc ici, c'est chaque école, chaque school district, qui sera un peu l'équivalent des académies, choisit son programme. Mmh. Ensuite, le système américain, donc, alors là où ils sont très forts, c'est ils sont beaucoup plus capables de prendre les enfants là où ils sont, à leur niveau, et d'adapter en fonction du niveau de chaque élève. Pour ça, c'est très bien. Genre, il y a beaucoup, beaucoup d'options. Genre, par exemple, ma fille est dans un programme en espagnol, où okay. La moitié de ses journées sont en espagnol. Ils sont... Après, sur les académiques purs, français match, enfin anglais match, je dirais c'est vraiment comparable. Je trouve que, enfin, je compare encore à ce que mes neveux font en France, tu vois, il n'y a pas une énorme différence.
Mmh.
Donc, le système français de ce niveau-là est plus rigide. Donc, on parle plus de redoublement, de ne pas suivre, etc. Alors que les Américains vont être. Ils vont beaucoup plus éviter les redoublements, c'est très très rare les redoublements, et vont plus ou moins mettre tout un tas de soutien, de services, genre orthophonie, support, anglais deuxième langue, mm-hmm. au sein de l'école pour ramener, remonter le niveau d'un enfant. Là où je trouve que le système français est meilleur, c'est donc sur la base, donc apprendre à écrire proprement, tenir son cahier proprement, être plus autonome. Ça, je trouve que le système français a quand même des. Au primaire, hein, je te parle vraiment,
ouais.
Au niveau du primaire, a de gros avantages. Il développe l'autonomie. Il évalue ça, enfin il y a tout ce côté-là et tout ce côté-là est bon. Alors, je dirais dans un sens, ce qui marche très bien en France, c'est si tu es dans le groupe, quoi. Si tu as un enfant qui est qui nage avec tout le monde, c'est Franchement, le système français, ça marche très très bien. Là, je trouve que le système américain, oui, donc, est plus adapté, enfin plus facile. C'est si tu as un enfant qui sort un peu du cadre. Par exemple, l'école publique, mm-hmm. ici, il y a des programmes pour les sourds-doués, il y a des programmes pour les handicapés, il y a des programmes donc pour les immigrants, pour ceux qui arrivent avec deuxième langue. Donc nous on a eu des enfants si tu veux des amis donc qui étaient rentrés en France après un séjour aux États-Unis, leur fille avait été à l'école ici aux États-Unis, en France ils les ont remis dans un programme pour des gens qui parlaient pas français, tu vois. Alors, ouais. C'est juste qu'elles avaient juste besoin d'une petite remise à niveau. Donc
elle avait 8 ans.
Elle avait 8 ans. Ouais,
donc, ah ouais.
donc pour ça c'est le système américain, dans ce sens-là, peut-être ce qu'on pourrait dire, moins scolaire, moins strict.
Ouais, un peu plus libre.
Plus libre, voilà. Et justement, un peu. Et je pense que ça se transmet, c'est un peu ce que tu as vu aussi dans une université américaine. Mm-hmm. Il y a tout un tas de soutien et de services pour t'aider à réussir, en fait. Et tu le ressens aussi dans le système éducatif scolaire.
Et plus de choix.
Et plus de choix,
ouais. Ouais.
Plus de choix dans le sens que, ouais, il y a plus de choix jeunes, ouais, plus de choix jeunes.
Moi, je décris les systèmes français et les inconnus au Caire. Je l'ai expliqué aux autres comme desks in rows, des bureaux en rang. Et ouais. Quand j'ai vu ça dans les classes de CP, de CE1, de CE2, que c'était vraiment des bureaux en rang, qu'avec la maîtresse à la tête de la classe qui écrivait, et les enfants prenaient des notes et étaient censés mémoriser des choses, je trouvais ça peut-être peu inspirant pour les petits, mais aussi, bon, ça donnait une bonne base aussi de l'autre côté. Je trouve que ce que je dis en tant qu'enseignante, en tant que prof de fac, je trouve que très souvent aux États-Unis, on saute directement de la base, directement à « et qu'est-ce que tu en penses ?»
Ouais.
Et on saute tout le milieu où on maîtrise vraiment tout ce qui vient, toutes les connaissances qui viennent d'avant. Alors que, bon, je trouve qu'en France, on arrive tardivement, voire jamais, à qu'est-ce que tu en penses ou qu'est-ce que tu vas en construire de cette base de connaissances.
Ouais, ouais, je vois.
On reste beaucoup plus sur mémoriser les connaissances.
Et donc ça, c'est pour tout ce qui est donc académique. Et autrement, les Français, ils rêvent beaucoup des lycées américains, du mode de vie d'élèves américains. Vous qui vivez là-bas, vous voyez ça comment ?
Bah, en fait, moi, je trouve assez cool, dans un certain sens, la vie du lycée, comme je l'ai vécu, mais le côté pouvoir sortir en centre-ville parce qu'il y a une transportation en commun, pouvait aller avec les amis, faire des choses, etc., je trouvais ça assez cool. Bon, certes, on conduit plutôt ici, ouais, plus facilement, mais de l'autre côté, je trouvais plus libre dans les systèmes où il y avait le transport en commun et tout ça.
Ouais.
Ouais. Ce qui fait rêver, alors c'est sûr, mais par les séries, alors c'est sûr, c'est très comme dans les films. Voilà, tu vois, mon fils, il y a l'équipe, c'est les Colts. Alors tous les emails, c'est Go Colts. bon, et ça, c'est chouette. Dans un sens, au début, ça fait rigoler, puis finalement, tu t'y fais et tu crées une connexion avec l'école, alors que j'ai aucune connexion avec mes écoles en France, quoi. Même pareil avec l'université, tu vois. Donc, pareil, le lycée, les parents, ils organisent, on fait des t-shirts, on vend les t-shirts. Là, il y a tous les masques avec le logo de l'école. Donc, ce côté team spirit, pour ça, moi, je trouve qu'ils sont forts, quoi. C'est mieux. En plus, il crée un lien avec les anciens. Donc, si tu veux, les anciens se sentent liés avec leur école, ils reviennent, ils font du bénévolat. Tu vois, pour les stages, quand tu as besoin d'un stage, ils vont prendre un des gamins de l'école. Dans ce niveau-là, au début, moi, ça me choquait un peu parce que les parents américains disaient tout le temps « Oh, we love our school !» Genre, voilà, bon, enfin, pour moi, c'est un service que tu utilises. Enfin, l'école, quoi. Tu vois, bon, c'est là où je pose mes enfants. Ils y reçoivent une éducation. Je les récupère à la fin de la journée. Je fais pas les devoirs.
De l'autre côté, en tant que parent, les écoles attendent beaucoup plus de nous.
Ouais,
On est censé faire du bénévolat pour vendre les choses, pour acheter les choses, toujours pour gagner de l'argent pour l'école, pour acheter des choses que le gouvernement ne fournisse pas.
Ouais, ça a double sens. Ouais, t'as aussi une pression. Les associations de parents d'élèves sont très présentes. Alors on fait des galas de charité, des machins. Alors à la fois c'est très sympa, mais à la fois ça, il y a un petit côté, t'as une petite pression, quoi.
Ouais.
C'est. Mm-hmm. Donc voilà, donc ça c'est comme ça que ça marche, quoi.
Et puisqu'on parle d'enseignement, bah du coup j'aimerais bien qu'on passe sur la fac. Vous avez tous les deux du coup cette expérience universitaire américaine. Comment vous l'avez vécu et c'est quoi pour vous les bons côtés, les mauvais côtés par rapport aux autres expériences que vous avez eues dans les autres pays?
Moi j'ai fait mes études supérieures aux États-Unis exclusivement dans les universités d'État. Donc j'ai fait l'université du Michigan, l'université du Missouri et l'université de Caroline du Nord pour mes trois niveaux d'études. Et ça coûte plus cher, mais il y a beaucoup plus de ressources.
Bien sûr.
J'ai fait un échange à Sciences Po et j'étais choquée parce que c'était 2004-2005. J'ai fait un semestre à Sciences Po. Et j'étais choquée. Il n'y avait pas d'ordinateur mis au disposition aux étudiants. Il y avait un labo avec, je pense, à peu près 10 ordinateurs en 2004.
Ouais.
C'était choquant, pas de papier toilette dans les toilettes.
Ah bon?
Oui. Et il faut dire, Sciences Po, c'est très bien placé. Les bâtiments sont très anciens. Encore, je ne sais pas si ça a changé dans les 15 ans depuis, mais... Donc, j'ai trouvé que les locaux étaient beaux, mais pas bien entretenus, avaient besoin de rénovation, que l'enseignement était excellent. J'ai pu étudier avec des lumières dans leur domaine, mais au niveau de ressources, oui, j'étais assez choquée par le manque de ressources. Et ce que je dis, c'est que, on a pour ce qu'on paye, et comme l'enseignement est à la supérieure est très très peu cher en France, il y a moins de ressources à mettre en place.
Ouais.
Alors moi j'ai fait la fac en France, c'était flagrant. Les bibliothèques qui sont pas ouvertes, wifi qui est plus que moyen, tu vois, très peu de livres. Tu arrives aux États-Unis, j'ai été à mon université, la bibliothèque est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Ouais.
Donc c'est même pas avec du staff, quoi. Enfin, pas.
Et les bibliothécaires, la bibliothèque de droit était.
Avait toutes faites des études de droit.
Ouais.
Donc, c'était tout de suite, tu demandais quelque chose, et des bonnes, tu demandais quelque chose tout de suite, tac, tac, ils le trouvent, c'était rapide, les photocopieuses avaient du papier, enfin, tout. Bon, le niveau de confort des étudiants, quand même, est flagrant en comparant les universités. Après, il y a un coût, et donc moi, j'ai financé avec des prêts mes études aux États-Unis, et c'est un fardeau. Hein. Faut pas se leurrer. Puisqu'après, bon, tu commences ta vie professionnelle, tu vois, mais il faut rembourser ses prêts. Je crois maintenant, l'année à Duke, juste l'inscription est à 60 000 dollars.
Ah ouais.
Pour vivre, tu vois, tu rajoutes presque 30 000 dollars, enfin, tu en as 90 000 pour un an. Donc, ce sont des chiffres absolument incroyables. Après, comme je dis, l'expérience a été géniale ici. Genre, les profs sont accessibles, c'est des petites classes, ils répondent aux emails. Du secrétariat au prof le plus connu, tout est vraiment fait pour que tu réussisses, quoi. Il y a des ordinateurs autant que tu as besoin. Il y a des. C'est juste incroyable, quoi. Le niveau, tous les midis, ils invitaient des guest speakers, il y avait des événements, enfin, tu l'as vu aussi aux États-Unis, des clubs, tu t'inscris dans des clubs, il y a vraiment...
Moi, j'ai adoré ça, c'était super.
Ouais, voilà.
Ça le plus marqué.
C'était vraiment... Pour ça, c'est vachement bien et aussi un choix de cours très, 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 très fort. Quoi.
Ouais.
Bon, quand tu dis en France, à la fac de droit en France, tu prends des cours d'anglais en amphithéâtre.
Quoi. Ouais.
C'est pour donner un...
Ça n'a pas de sens.
Voilà. Moi, j'ai fait des très bonnes études en France. J'ai eu la chance de bien réussir. Donc, je n'ai pas à me plaindre. Mais c'est vrai que moi, je dirais profitez de vos programmes d'échange au maximum. C'est vraiment, allez-y, ça vous permet de vivre une expérience extraordinaire. Alors, aux États-Unis, si vous avez envie d'aller aux États-Unis, mais même moi, je suis allé au Chili, c'était vraiment grâce au programme d'échange, c'était super aussi. Allez à l'étranger, ouvrez-vous au monde, et franchement, ça va être une année incroyable. Mais oui, il y a une énorme différence.
Mais ça risque de changer la vie, hein.
Ouais, après, on rencontre...
Ah oui, ça, c'est sûr.
Et puis,
c'est même pas un risque. C'est...
mais ouais, non, le niveau de ressources, est incroyable. En fac de droit, tu vois, j'ai commencé à Bordeaux, tu vois, on est plus de 1000 en amphithéâtre, c'est une machine à sélectionner. Si tu arrives pas à suivre, il y a très très peu de ressources pour t'aider à remonter la pente.
Oui, alors que pour nous, bon, pour moi, si j'ai un élève, si j'ai un étudiant qui suit pas, je fais mon maximum pour essayer de leur mettre au niveau. Si j'ai quelqu'un, bon, maintenant avec les cours en Zoom et tout ça, on en a qui ne se connectent pas, je leur envoie un email, j'essaie de rattraper les gens. Parce que pour nous, c'est un échec si j'ai un étudiant qui foire.
Oui, c'est vrai, ça d'ailleurs, du point de vue professeur, comment ça se passe? Je ne sais pas s'il y a peut-être des professeurs qui peuvent écouter aussi. Je ne sais pas si tu as déjà. Enfin, oui, tu as enseigné aussi quand tu étais au Caire, si je ne dis pas de bêtises.
Oui.
C'est quoi les différences marquantes quand on est professeur aux États-Unis? Parce que, bon, j'ai rencontré pas mal de professeurs là-bas et c'est vrai que c'est un métier qui est particulier. Enfin, par rapport à la France, c'est quand même une expérience différente.
Oui, ben pour nous, on est titularisé au bout de 6 ans. Et donc, les premiers 5 ans de la carrière, c'est il faut publier une ou deux articles par an. Un ou deux, oui, voilà, je me suis
c'est pas grave, c'est rien du tout.
Donc, un ou deux articles par an, et sinon, bon, à la fin de ces 5 ans, on est titularisé ou on est viré. Et c'est pas difficile de se faire virer. Donc, déjà, c'est une pression qu'on n'a pas en France en tant que professeur. Mais après, on a...
Le rapport aux étudiants est différent, quand même.
Oui, le rapport aux étudiants, comme je dis, bon, bah, j'ai jamais eu de cours. Bon, le semestre dernier, j'ai fait un cours d'introduction dans le média et sa société. et j'avais 75 étudiants, et c'est le plus gros cours que j'ai jamais fait.
Ouais.
Normalement, j'ai entre 15 et 30 étudiantes dans un cours. Et donc, bon, tout de suite, c'est différent parce que tu les vois, tu les écoutes, tu interagis.
Tu connais leur nom.
Je connais leur nom.
Oui, ça, c'est déjà quelque chose de très important.
Oui, ouais. Oui, mais très différemment que si on est dans un amphithéâtre. Et comme
ah, mais totalement. Moi, j'ai des professeurs en France, je pense qu'ils n'ont jamais appris mon nom en 2 ans. Hein. C'est...
Oui,
ouais, voilà. Ouais, c'est vrai. Oui.
Mais ce qui est difficile maintenant, c'est que bon, tout le monde met des masques maintenant et on n'arrête pas, on sort en ville, on achète un café ou quelque chose et il y a quelqu'un derrière un masque qui dit « Ah, Sheila, ça va? Comment vont tes cours? J'ai adoré ton cours, etc. » Et je n'ai aucune idée qui est cette personne. Un, il y a la masque et deux, ça peut faire 2 ans que je ne les ai pas vus et ils étaient en groupe de 40 et bon, je suis forte, mais tu peux me rappeler ton nom.
Mais déjà, ça veut dire que l'étudiant t'appelle par ton prénom, oui. Si c'est bon ce que tu viens de dire.
Oui, oui, oui. Donc ça, c'est un peu au choix et culture du professeur et de la fac. Moi, je suis dans un programme où la culture de l'école de journalisme, là où je suis, c'est qu'on utilise les prénoms. Y en a d'autres qui ont fait moins. Bon, il y a tout un discours féministe sur le fait que les étudiants vont tout de suite au prénom avec les professeuses, comme on dirait en Suisse, qu'avec les professeurs hommes. Mais oui, grosso modo, on a tendance à utiliser les prénoms. Mais ça, c'est juste la culture plus casual des États-Unis, je pense, plus qu'autre chose.
Ouais.
Ouais. Moi, j'insiste dans les emails, dans l'écrit, que les étudiants m'appellent docteur, Pochot, ou autre, parce que sinon, j'ai beaucoup de miss, et ça, c'est juste pas accurate.
Donc, ouais. Il faut trouver les limites et les barrières.
Oui, exactement. Mais ça, c'est personnel.
Ouais, oui, bien sûr. Il y a un truc qui m'avait un peu choqué là-bas, c'est que les étudiants peuvent noter leur professeur.
Oui, ah oui, c'est donc à la fin de chaque semestre, les étudiants reçoivent un email leur donnant l'opportunité d'évaluer anonymement, mais officiellement, la qualité de l'enseignement et du professeur. Et donc, ils reçoivent un lien et ils peuvent noter 1 sur 5 sur les connaissances de leur professeur, la qualité de l'enseignement, combien le professeur était à l'écoute des étudiants. Et après, il y a, est-ce que vous voulez dire autre chose? Et moi, je pense, ça existe depuis toujours. Quand j'étais étudiante, dans les années 90, ça existait, mais c'était à l'écrit, avec les petites bulles qu'on remplissait avec un crayon à papier. Mm-hmm. Je pense que c'est devenu plus vicieuse maintenant parce qu'on est tous acculturés dans la culture de Yelp. Si tu veux, où on a tendance à mettre soit 0, soit 1, soit 1 étoile sur 5 étoiles et on dit tout ce qu'on veut sur l'Internet avec peu de propriété, si tu veux.
Ouais.
Et donc, ça peut être... Bon, j'en ai eu qui sont très inspirants, que je garde avec moi, disant, je pense vraiment que mon compas, mon boussole morale... Et meilleur parce que j'ai pris ce cours avec cette prof. Et de l'autre côté, j'ai eu elle est très bien et moi je la ferai. Donc, on a toute la gamme.
Ok.
et je, bon, je les ouvre à la fin de chaque semestre avec trépidation, pour être honnête, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va voir quand on les lit.
Mais c'est un peu comme les commentaires YouTube, quoi. C'est anonyme et les gens se lâchent, quoi.
Oui, ouais. Non, et c'est ça qui est sérieux, c'est pris au sérieux par l'université. Ouais. Et si j'en ai trop qui disent que, bon, je ne fais pas mon boulot, je ne suis pas à leur écoute, je suis mal organisée, etc., bon, ça peut nuire ma carrière. Ça peut faire que je ne serai pas titularisée. Et c'est prouvé que les étudiants sont plus durs avec les profs femmes et les profs de couleur, comme on dit, qui sont noirs ou black ou latino ou asiatiques, ou les profs qui sont gays ou lesbiennes, ou les profs qui ont un accent étranger.
Oui, ça m'étonne
pas. Absolument scientifiquement prouvé que les hommes blancs américains ont des meilleures évaluations anonymes, malgré tous les autres facteurs. Et donc ça, c'est controversé, mais les facs les gardent quand même. Donc on a plus le rapport aussi client avec nos étudiants, parce qu'on sait qu'à
comme s'ils achetaient leur cours.
À 30 ans, ils peuvent se lâcher sur nous.
Oui. Oui, au final, puisqu'ils payent leur éducation, c'est un peu comme s'ils achetaient leurs cours, puis ils peuvent les choisir, ils choisissent le professeur, et après, ils vous notent. C'est un peu comme si on choisissait nos cours sur Amazon, en quelque sorte.
En quelque sorte. Je ne dirais pas jusqu'à là, mais c'est sûr que ce n'est pas du tout une relation où moi, je suis l'autorité, et ils sont censés faire ce que je veux faire, et c'est pour leur bien, ou c'est moi qui décide.
Il y a les sites aussi comme Rate My Professors que j'ai
vu,
où les étudiants vont carrément aller voir les notes mises en ligne sur une personne. C'est assez incroyable.
Oui, et ça c'est complètement hors contrôle de la fac. Moi, je n'ai pas regardé depuis une dizaine d'années parce que je disais, comme j'ai expliqué une fois, s'il y avait une site Rate My Ex-Boyfriend, on ne regarderait pas.
Oui, bien sûr.
Parce que c'est la même chose, c'est les gens qui veulent se plaindre qui a plus tendance à mettre les choses là-dessus.
Et ah oui, bien sûr.
C'est bien prouvé que les remarques sur les professeurs femmes sont beaucoup plus dures, beaucoup plus sexualisées, etc. Et donc, moi, je me dis, je n'ai pas besoin de ça dans ma vie. Donc, je ne regarde pas. Ça ne veut pas dire que mes futurs étudiants ne regardent pas, mais moi, je ne regarde pas.
Et Jean-Gab, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter sur les études ?
Enfin, ce que je dirais quand même, c'est... moi, ce que je trouve super aux États-Unis, c'est si vous voulez vraiment étudier un sujet particulier, parce que c'est vraiment possible, le nombre de cours qui est offert est quand même très, 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 très large. Ça, c'est aussi une des grosses différences de la France. Quand tu commences en droit en France, t'as le choix entre droit constitutionnel, histoire du droit, droit civil, droit pénal. Bon, t'as quatre matières et tu plus quelques options, mais aux États-Unis, ça va être beaucoup plus subdivisé et tu peux vraiment choisir tes centres d'intérêt. Bon, bien sûr, il faut pour avoir une major, il faut quand même avoir un nombre de crédits dans le domaine. Disons, tu ne peux pas prendre architecture si tu prends que des cours d'anglais ou d'histoire, mais c'est vrai que pour ça c'est bien. Moi, j'encourage quand même les Français de profiter de ça, c'est une opportunité géniale. Ce que je dirais, c'est si j'avais un conseil, c'est si vous devez financer vous-même les frais d'inscription, faites très attention et vraiment ne vous engagez que si vous êtes pris que dans un programme vraiment top 15, quoi. N'allez pas emprunter 60 000 dollars pour, à moins que vous adoriez un professeur, je ne sais pas, mais Si vous venez 2 ans, vous allez vous endetter sur 200 000 euros pour aller faire un diplôme dans une université qui ne sera pas reconnue ou peu reconnue en France quand même. Le nom et la joue. Après, ça vaut le coup parce que c'est un accélérateur de carrière formidable. Moi, dès la sortie, j'ai eu des postes que j'aurais jamais eu si j'avais pas fait ça. Faut pas se leurrer.
En France ou aux États-Unis?
Aux États-Unis, mais même, oui. Enfin, aux États-Unis et même, même en, enfin.
Mais vos collègues en France.
Ouais, pareil, c'est reconnu, ouais, tout. Ouais. Moi, à la sortie de mon diplôme, tous ceux qui ont voulu rester aux États-Unis sont restés aux États-Unis. Tous ceux qui ont voulu rentrer chez eux sont rentrés chez eux. Donc, on a vraiment eu. Donc, ça, c'est un des gros avantages aussi d'aller dans une fac qui est très connue. Et ça, c'est aussi l'importance des réseaux d'anciens. Donc voilà. Donc, mais disons, ouais, c'est un accélérateur de carrière formidable. Faut pas se leurrer. Mais après, faut aussi être réaliste parce que, enfin, moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Genre, on est tellement content d'être pris parce que c'est un rêve qui se réalise. Bon, la sélection est très dure. On a investi beaucoup de temps et d'argent dans la préparation du dossier, des tests, etc. Et on est tellement content qu'on signe un peu le contrat de prêt sans forcément réfléchir. Et je dirais, je dis pas ne pas le faire hein, parce que c'est chacun est responsable, mais réfléchissez bien parce qu'après le prêt dure, on veut faire une famille, on veut acheter une maison, on veut acheter un appartement, hein, et il y a toujours cette dette qui pèse, donc faut bien peser le pour et le contre. Donc, oui. Mais après, bon, moi j'ai eu une expérience de rêve, hein, faut pas se leurrer, hein, c'était génial.
Et moi, pour rétro-pédaler un tout petit peu sur les études, je pense qu'un des avantages pour les Français de faire des études aux États-Unis ou au Canada, ce serait de pouvoir faire, comme Jean Gabadi, des cours qui sortent un peu du bulle.
Ouais.
Parce que quand j'ai rencontré Jean-Gabriel, il avait 27 ans, il n'avait pas pris de cours qui n'étaient pas directement liés au droit, à le droit,
ouais,
depuis qu'il avait 17 ans.
Depuis le bac. Mmh.
Depuis le bac. Et donc, ouais, il y avait un moment où on est allés tous les deux au Madrid et on était au Prado et j'ai commencé à lui expliquer quelques tableaux. Et il m'a dit, « Ouais, c'est vraiment impressionnant. Comment tu connais sur ce tableau ?» Et je dis, « Bah, je l'ai étudié dans un cours d'histoire d'art à la fac. » Il m'a dit, « Bah, comment ça que tu as pris un cours d'histoire d'art ?» Et je dis, « Bah, j'ai pris un cours d'histoire d'art, juste comme ça. » Alors que j'étais pas, c'était pas ma matière principale. Et donc, je pense que c'est une opportunité aussi pour les Français de pouvoir faire des études niveau supérieur dans les sujets qui sortent de leur domaine.
Ouais.
Et ça c'est chouette.
Ça, c'est chouette, ouais. Parce que même en graduate school, si tu y vas, tu peux prendre des cours à la fac de business. Enfin, plus ou moins dans toute l'université, tu peux prendre un cours. Même si tu fais des études de droit, tu veux juste prendre un seul cours en astrologie, tu peux.
Astrologie.
Oui, enfin n'importe
astronomie,
quoi.
Astronomie plus.
Astronomie.
Ouais,
astronomie, enfin. Non, mais bon, il y en avait beaucoup qui prenaient des cours dans les écoles de business. C'est pour ça, c'est chouette, quoi. C'est vraiment différent.
T'es moins coincé.
Puis comme je dis, bon, ce qui est extraordinaire, c'est le sens de communauté, quoi. On dit c'était vraiment une des meilleures des années de votre vie, mais c'est vraiment comme ça.
Ouais. Et comment c'est vu aux États-Unis le diplôme? Est-ce que c'est quelque chose qui est indispensable pour avoir un bon travail, comme ça l'est en France? Sans diplôme, ça devient quand même très compliqué. J'ai un peu l'impression qu'aux États-Unis, on se base aussi beaucoup sur l'expérience personnelle. C'est quoi votre ressenti là-dessus?
Moi, je dirais que le diplôme, c'est tout aussi nécessaire. Mais la différence, c'est que quel diplôme tu as est un peu moins nécessaire. Disons que quand j'étais en France, je voulais faire du journalisme, mais je ne sortais pas de l'université de Lille avec mon diplôme en journalisme, j'étais cuite.
Ouais, c'est hyper compliqué.
Oui, alors que, aux États-Unis, si un poste demandent un diplôme, ils vont demander le bachelor's degree ou le master's degree, le master. Mais c'est moins compliqué si tu dis, bah, en fait, j'ai fait mes études en communication, mais je veux cette poste en, je ne sais pas, marketing. Ça, surtout si, et après, tu peux avoir un poste dans un domaine, et après, c'est peu importe quelle matière ton diplôme. Mais le fait d'avoir le diplôme, ça, ça compte beaucoup. Sans diplôme, c'est compliqué.
Ouais.
Je dirais pour les... l'avantage du diplôme, c'est si tu viens à la fac ici, c'est surtout tu as le droit de rester travailler après, pendant un certain nombre de mois. Et donc, nous, à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui ont pris avantage de ça. Et ensuite, après, ben, les boîtes les ont gardées, ils ont fait leur visa, etc. Pour ceux qui voulaient vraiment rester aux États-Unis. Donc ça, ça, c'est pas mal. Du point de vue immigration, ça facilite quand même aussi pour ceux qui veulent rester aux États-Unis. Bon, moi, je dirais, dans mon diplôme, c'était mix. Il y en avait la moitié qui a voulu rentrer, la moitié qui a voulu rester. Et ceux qui voulaient rester ont voulu rester un an de plus, mais ils n'ont pas voulu faire leur vie ici. Ouais. Mais bon, le gros avantage de l'université, c'est qu'ils ont des foires étudiantes, des foires d'emploi, enfin des job fairs. Donc, sur le campus, il y a tout un tas d'entreprises qui viennent et qui recrutent les étudiants. Donc, tout de suite, c'est très facile. Ouais. Moi, j'ai été recruté sur le campus, hein.
Ouais.
Et je suis tombé dans le domaine des logiciels libres que je connaissais pas avant et voilà, pof, tout de suite j'ai décroché un stage et tout de suite, alors ils m'ont pris en stage 3 mois, le stage a duré, était prolongé de 3 autres mois, j'ai fait 6 mois de stage, c'était payé, je précise, et ensuite bon, ils m'ont offert un job temps plein, quoi, donc CDI, quoi. Donc pour ça. Je dirais quand même, ça facilite, quoi. Puis ça vous fait des contacts, les professeurs ont des contacts. À moins d'avoir déjà de la famille aux États-Unis, c'est quand même un bel avantage, quoi.
Et du coup, puis s'il ne nous reste plus beaucoup de temps, j'aimerais bien parler de l'aspect un peu culturel. Donc ça fait très longtemps, enfin, ouais, ça fait vraiment longtemps que vous vivez aux États-Unis maintenant. C'est quoi pour vous les différences marquantes avec la culture française et le mode de vie français ?
Tout est fermé le dimanche en France.
Oui, ça c'est vrai.
Bah, en gros, moi je dirais la grosse différence quand même qui est flagrante, c'est la taille du pays et le fait que tout ne se passe pas dans une ville principale. Après, c'est vrai qu'il y a un côté des États-Unis que c'est comme dans les films, quoi. Tu débarques à l'aéroport, il y a les flics dans leur grosse voiture avec le badge qui brille, le gros gun à la ceinture, etc. Nous, ici, on habite au Nevada, donc on peut porter des armes. Ça m'est arrivé d'aller au McDo, il y a un mec qui arrive avec ses Colt à la ceinture, quoi.
Ah ouais.
Donc, il y a un côté film qui est vraiment vrai. C'est vraiment, tu réalises ton rêve. Après, c'est vrai je dirais, la grosse différence, c'est tu peux vivre vraiment partout aux États-Unis et quand même avoir une belle carrière. Il y a moins ce côté qu'il faut être à Paris. Beaucoup de sièges, le siège de Walmart, par exemple, qui est le plus grand distributeur alimentaire aux États-Unis, est au fin fond de l'Arkansas. Tu as plus de choses comme ça. Le deuxième centre bancaire aux États-Unis, c'est la ville de Charlotte en Caroline du Nord, qui est complètement inconnue en France, alors que ça reste une métropole majeure. Donc tu as ça, tu as le côté et après le côté distance, quoi, qui quand même est je dirais, on dit toujours tout est grand aux États-Unis. Et moi, je rentre maintenant, je dis mais pourquoi ils font tout petit en France ? Parce que je me suis habitué à
oui, c'est vrai.
Des trucs, quoi.
Ouais.
Et pourquoi c'est tout fait petit. C'est donc ce côté-là, je dirais culturellement, c'est vraiment ce qui saute aux yeux. Après, sur faire des amis, etc. Bon, c'est les Américains sont beaucoup plus dans des équipes, des machins, donc dans ce sens-là, il faut s'investir, il ne faut pas avoir peur de se lancer. et on trouve des amis assez facilement. Après, il y a des régions. Par exemple, dans l'Ouest, je trouve que ça a été beaucoup plus facile de faire des amis que en Caroline du Nord. Ou dans l'Est, que j'ai trouvé, les gens étaient plus fermés. Quoi. Bon, c'est assez marrant, quoi. Voilà. Après,
pour moi, je trouve que j'adore la culture en France. Je suis quand même francophile. Cela dit, je trouve plus difficile pour moi de vivre en France que pour Jean-Gabriel de vivre aux États-Unis. Je pense que les Français sont moins ouverts à la différence. Mm-hmm. Et dès que t'es différent, bon, bah, t'es différent. Tu rentres pas dans la boîte. Et je pense que, bon, il y a ça. Et ce qui est difficile aux États-Unis, c'est le fait qu'on a beaucoup d'opportunités, on peut faire plein de choses, on a beaucoup de choix, mais une des choix aux États-Unis, c'est de foirer. Et si t'as beaucoup moins de protection, si les choses se passent pas bien pour toi aux États-Unis. Et mm-hmm. bon, si t'as un gros accident de santé, t'es beaucoup plus...
Vulnérable.
Vulnérable, voilà. Je pensais à une phrase qui avait plus de couleur que vulnérable. Donc, c'est tout ça, la vulnérabilité, qui fait que même si tout se passe bien, tu sens que, bon, tout peut tourner mal dans très peu de temps. C'est quand même stressant aux États-Unis.
Et bon, la politique, c'est un peu tabou en France, donc si vous voulez pas en parler, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que depuis ces 4 dernières années, vous avez trouvé que les choses ont pu changer ?
Oui.
Oui. Ben, disons, c'est toujours pas... Enfin, c'est... Moi, je dirais, c'est... Surtout, ce qui est bizarre, c'est que c'est plus décomplexé maintenant. Enfin, même moi, je trouve que la France, personnellement, c'est très droitisé. Si tu veux, je trouve que les gens disent des choses en France, même dans les médias, qu'on aurait... Enfin, bon, moi, je suis plus l'époque SOS racisme. Enfin, bon... je trouve que enfin, moi, en France, le discours anti-musulman me déplaît fortement. Je trouve que la France est devenue trop anti-musulmane. Ici, bon, il y a quand même ce côté... oui, la parole s'est décomplexée. Ce qui m'inquiète, moi, quand même, aux États-Unis, ce que j'aime pas, là, de cette élection, c'est le fait qu'ils délégitimisent l'élection. Et ça, c'est un truc nouveau que j'avais pas vu. J'ai jamais vécu ça, disons.
Sauf en Égypte.
Ouais, sauf en Égypte, et ça a tourné mal. mais ce côté... bon, enfin, disons, aucune des politiques de Trump ne m'a plu pour l'instant. Donc, il est anti-immigration, anti-climat. Bon, je ne suis pas... je me considère de tendance politique bon, centriste, centre-gauche, quoi. Mais là, enfin, tu vois, enfin, je sais pas, le côté, là, le pays est sous la fumée, etc. Et il est venu ici au Nevada la semaine dernière et il a fait la promotion des industries pétrolières, quoi. Bon, il a un discours quand même des politiques sur la politique d'immigration qui est très très forte. Enfin, moi, je trouve ça assez scandaleux, quoi. Et bon, enfin, ça s'est tendu, moi, personnellement, enfin, comme je le dis souvent, je ne sais pas si j'ai envie de faire 4 ans de plus s'il repasse, quoi.
Ouais.
Parce que, bon, peut-être qu'on fera autre chose. Ça, c'est le gros avantage, vu que je suis resté longtemps ici, j'ai pu demander la nationalité américaine, donc maintenant, je peux partir et revenir à ma guise, quoi. Mais c'est un luxe, hein, je le reconnais. Mais c'est vrai que voilà, ouais, donc j'espère vraiment qu'il va être battu. J'espère qu'il va être battu par. Il y aura pas de discussion possible. Et mais bon, enfin, c'est très difficile, quoi. Le discours ambiant où on dit des choses. À la télévision enfin, les choses que les gens se permettent de dire à la télévision me paraissent incroyables, quoi. Enfin, bon, il y a le fameux Fox News que tous les Français connaissent, qui est incroyable. Enfin, c'est comme mm-hmm. si vous aviez une télé avec Zemmour toute la journée, quoi. Ouais. Voilà, donc bon. Moi, j'ai grandi, tu vois, c'était les nuls, les guignols de l'info, enfin bon, c'était vraiment une autre époque, quoi. Mais je trouve ce discours dangereux, facile, ça me désole.
La prochaine fois qu'on se parlera, vous serez peut-être plus aux États-Unis.
Ouais, on verra. Bon, espérons que Biden passe, voilà.
Bon, en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir, c'était une super conversation.
Bah, avec plaisir.
Merci beaucoup.
Il y a plein de trucs qu'on n'a pas pu couvrir, donc peut-être une prochaine fois, je sais pas, c'est passé super vite.
Oui.
Bah, avec plaisir, et puis si les auditeurs aussi ont des questions, qu'ils n'hésitent pas, et puis tu nous les passeras, on répondra avec plaisir.
Ah oui, bien sûr. Eh bien, merci à vous, à bientôt.
Merci.
Si, à plus.
Et merci à vous, auditeurs, j'espère que le voyage vous a plu. Pour ne pas louper les prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça m'aiderait beaucoup. Pour ceux qui me découvrent, je possède également une chaîne YouTube au nom de Arthur Jean, sur laquelle je parle d'histoire et de culture américaine. Je vous invite vivement à y faire un tour et à vous y abonner si vous voulez continuer ce voyage virtuel en outre-Atlantique. A très bientôt pour de nouvelles aventures.